et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir et heureux de vous savoir nombreux. Là où vous êtes partout, vous êtes en République démocratique du Congo et même en dehors de nos frontières. Comment identifier les fake news sur les réseaux sociaux en cette période des conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo? Christian Malélé, expert sur les questions de la désinformation à Lokuta Mabé. Un programme de fact-checking, de vérification des faits. Un autre invité aujourd'hui, Christian Malélé, bonjour.
Et merci pour l'invitation.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations composées déjà à 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Toute l'équipe est en place pour vous servir. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons échanger sur la culture pérenne en République démocratique du Congo. Comment relancer cette culture avec les programmes que mène l'ONG ou la structure dénommée Better Life. On en parle dans la deuxième partie de cette émission à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Merci de rester fidèle à Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Toute l'équipe est en place pour vous servir. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation. Alain Goy à la mise en onde au micro. Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir. Okapi.
Bienvenue encore une fois dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Et si vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes digitales, eh bien, c'est grâce à Nelson Nyombé qui est à la manette. Bien, nous allons échanger à présent, parler des fake news. Les fake news, en tout cas ces derniers temps, c'est les rumeurs, les fausses informations, la manipulation des informations. Eh bien, sur les réseaux sociaux, se porte bien en cette période de la dégradation de la situation sécuritaire au nord et sud Kivu, où la rébellion du M23, appuyée par l'armée rwandaise, mène des offensives. Alors, la bataille de l'information, celle des mots, des images, des audios, se joue sur les réseaux sociaux entre partisans du pouvoir et des rebelles. On dit même que les armées numériques sont mobilisées, n'est-ce pas, pour désorienter les internautes. Alors, comment identifier une fake news sur les réseaux sociaux en cette période des conflits armés dans la partie est du pays? Eh bien, nous discutons de ces sujets avec notre invité qui n'est autre que Christian Malélé, expert sur les questions de la désinformation à Lokuta Mabé, qui est un programme de vérification des faits, de fact-checking, voilà, actualité.cd. Christian Malélé, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission.
Également.
Bien, alors, c'est quoi les fake news? On parle de fake news, de quoi s'agit-il?
Alors, le mot fake news, c'est un anglicisme, c'est un mot anglais qui veut dire simplement en français « fausse information ». Alors que le mot fake en français ne veut pas dire « faux », mais ça veut plutôt dire « truqué ». Donc, lorsqu'on parle de fake news, il faut d'abord comprendre que c'est une information truquée. On voit déjà l'intention de manipuler une information, de manipuler le message pour induire la masse en erreur. C'est ça une fausse information.
D'accord. On a vu depuis que le M23 a lancé l'offensive sur Goma, ça va dans tous les sens, les audios, les vidéos, chacun publie à sa manière et ça crée la confusion.
Exactement, c'est d'ailleurs ça l'objectif d'une fausse information, c'est induire la masse en erreur, donc c'est-à-dire dérouter, désorienter et orienter vers de mauvaises décisions. Parce que les désinformateurs ou les fake newsers, ce sont des personnes qui relaient très souvent des fake news avec l'intention d'induire la masse en erreur. Mais il y a aussi une catégorie de personnes qui relaient de manière involontaire des fausses informations. Là, on l'appelle mésinformation. Donc, l'action de diffuser une fausse information de manière involontaire, mais ça induit quand même en erreur et ça provoque les mêmes conséquences que une fausse information relayée par un désinformateur.
Alors donc c'est, on peut dire que c'est intentionnel.
C'est intentionnel. C'est, oui. C'est intentionnel. Et lorsque c'est intentionnel, on parle de la désinformation. C'est-à-dire l'auteur de la publication ou de l'information est conscient que la fausse, c'est plutôt son message est faux. Mais il prend quand même l'initiative ou le courage de, de la partager sur les réseaux sociaux ou à travers les médias pour induire la masse en erreur. Mais lorsque la personne est inconsciente de la qualité de l'information, mais diffuse quand même cette fausse information, là on parle de la mésinformation.
Voilà, mésinformation. On parle même des armées numériques aujourd'hui. C'est quoi une armée numérique?
Bon, une armée numérique, je dirais, c'est un groupe d'individus qui sont majoritairement des internautes, qui très souvent se revendiquent patriotes et qui se disent de défendre le drapeau ou de défendre le pays, peu importe le moyen utilisé. Et ils utilisent toute forme d'information, que ce soit truqué, que ce soit de vraies informations, mais qui peuvent peut-être troubler aussi l'ordre public, qui peuvent inciter par exemple à la haine ou à la violence. Donc ils utilisent toutes les méthodes possibles où ils véhiculent tout le message possible juste pour atteindre leurs objectifs qui est celui de défendre le drapeau.
Bien, mais on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans les différents groupes WhatsApp, sur Facebook, ça va dans tous les sens, n'importe qui publie n'importe quoi. On prend les images d'une guerre ou d'une situation qui s'est passée ailleurs, on la colle à la RDC aujourd'hui. Maintenant, on est dans la confusion. Alors, aidez-nous comment s'en sortir, comment reconnaître une vraie information de celle qui ne l'est pas.
Alors, il faut d'abord commencer par savoir ce qu'on peut vérifier et ce qu'on ne peut pas vérifier. Et ce qu'on ne peut pas vérifier, ce sont des opinions. Les opinions, on ne peut le vérifier. Parce qu'une opinion, c'est une appréciation personnelle, c'est un jugement personnel, c'est un point de vue. On ne peut jamais le vérifier parce que ce n'est pas un fait objectif. Mais on ne peut vérifier que des faits. Un fait, c'est un événement qui s'est déroulé réellement dans un temps et à un moment donné. C'est-à-dire, c'est une histoire réelle. C'est quelque chose qui s'est réellement déroulé quelque part à un moment donné. C'est ça, c'est ce qu'on peut vérifier. Alors comment parvenir à vérifier un fait ou à savoir que telle vidéo ou telle image, tel audio est vrai ou faux? Il faut procéder de plusieurs manières. Ce sont des techniques qu'on utilise en fact-checking, dans la vérification des faits. Premièrement, lorsqu'il s'agit par exemple d'une déclaration. Et il faut d'abord voir, parce que l'intention des désinformateurs ou des fake newsers, c'est brouiller le piste. Donc c'est ça leurs intentions. Donc ils ne veulent jamais que la population remonte facilement vers la source d'origine ou vers la source primaire. Raison pour laquelle ils brouillent plutôt de pistes. Donc il faut, lorsque vous êtes devant une information, une déclaration, vous devez d'abord vous questionner sur beaucoup de choses. Par exemple, c'est qui est l'auteur de l'info et ça a été publié quand, ça date de quand, ça a été tenu dans quel contexte et c'était quoi exactement. Donc il faut
avoir un esprit critique.
Un esprit critique en quelque sorte. Oui. Donc il faut vraiment développer un esprit critique pour ne pas tomber facilement dans la désinformation. Donc voir si l'information est sourcée, voir s'il y a la date, voir s'il y a le contexte. Parce que on peut prendre par exemple une capture d'un article d'un média en ligne et insérer un texte qui n'a jamais existé et on l'attribue à un politique ou à un groupe dans les conflits pour faire croire à l'opinion publique que c'est réellement ce groupe-là qui a tenu ces propos alors que ce sont des propos totalement fabriqués. Donc il faut voir, il faut remonter vers la source primaire. Donc si on cite par exemple un média en ligne, il faut ces médias en ligne certainement à un site internet. Il faut se rendre sur les sites et voir si l'article en question existe ou non. Se rendre aussi sur les réseaux sociaux du même média pour voir si les propos sont repris ou non. Et il y a aussi une autre manière simple qu'on peut utiliser pour voir si la déclaration circule déjà sur Internet. Il suffit juste de copier le texte et se rendre sur les moteurs de recherche comme Google, l'insérer entre guillemets et ensuite lancer la recherche. Et Google va vous renvoyer plusieurs résultats et parmi les résultats, il y aura certainement des résultats provenant des sites internet comme des blogs, des médias en ligne, voire même des réseaux sociaux. Et le site internet, plutôt Google va vous renvoyer des résultats où on reprend textuellement la phrase. Et si vous ne retrouvez pas la phrase, c'est-à-dire ça n'existe pas sur Internet. Et si ça n'existe pas sur Internet, c'est-à-dire il y a certainement une intention de détourner oui. le public dans la dite déclaration.
De créer la confusion.
De créer la confusion, oui.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons aujourd'hui des fake news sur les réseaux sociaux. Comment les identifier, surtout en cette période où l'Est du pays est en conflit. Thomas Ougeni nous appelle depuis Bounia et Jérémy de Lubumbashi. Thomas Ougeni, bonjour.
Bonjour, monsieur. Monsieur Jody, et bonjour à l'invité.
Bien.
À tous les auditeurs de la radio.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la désinformation Merci. Sur les réseaux sociaux?
Merci beaucoup, monsieur Jody, de la parole nous accorder, parce que c'est un sujet vraiment à la une, parce que l'île n'ignore que l'Est du pays est agressé par les Rwandais avec ses marionnettes de M23. Et face à ça, monsieur Jody, parce que le ministre de la communication parlait, la guerre n'est pas seulement sur le plan diplomatique, la guerre aussi sur le plan sur le plan d'information. C'est-à-dire là, on voit plus les réseaux sociaux, parce qu'actuellement, avec les technologies qui a évolué, en fait, avec la technologie, pardon, qui a évolué, les choses se passent aussi sur le plan des réseaux sociaux. Et face à ça, il est très important que nous, en tant que population, on puisse ne pas se fier à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et ça, j'ai salué quand même l'initiative où on a fermé quand même les réseaux TikTok là pour le moment. Ça nous met un peu à l'aise, là, parce qu'avant là, tout se faisait sur, par exemple, les réseaux TikTok. Toute personne se permettait de faire de n'importe quoi. Maintenant, avec la restriction là, temporairement du réseau sur TikTok, on voit quand même ça peut améliorer. Mais face à ça, monsieur, je dis, il y a également la loi sur le numérique qui est là. C'est bien, la loi a été promulguée, mais on ne sanctionne pas aussi les gens qui parviennent à faire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il y a la loi a été déjà promulguée il y a longtemps, mais jusque-là, il n'y a pas un cas concret où une personne a été sanctionnée par rapport à ça. Mais ça aussi, le rôle, c'est ça qui est là, mais aussi avec le gouvernement. La loi est déjà là. Pourquoi on n'applique pas la loi par rapport aux gens qui arrivent à commettre à publier des fausses informations, à injurer sur les réseaux sociaux? Pourquoi on n'applique pas la loi pour séparer les gens-là? Face à ça, monsieur, je vous dis, j'ai des questions à poser à l'invité. La première question est de savoir quels sont les outils et méthodes efficaces pour identifier les fake news sur les réseaux sociaux. C'est la plus grande question, monsieur. Quelles sont les méthodes? Parce que moi, on peut pas être tous techniciens en la matière. Qu'est-ce qui va attaquer nos populations? Quels sont les outils
pour
identifier les fake news sur les réseaux sociaux? La deuxième question, monsieur, je dis, quel est le rôle de la population? Le rôle de la population qu'on peut jouer pour lutter contre la propagation des fake news à ces pareils moments-là? Quels sont quel est notre rôle face à ces problèmes-là? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux fake news qui peuvent arriver sur les réseaux? On doit se fier à qui?
D'accord.
On doit se fier à quels médias ou à quels sont les sites qu'on peut fier pour les pareils cas? Parce qu'il y a beaucoup de informations. Vous voyez que les communiqués sont même signés par les autorités, mais comment est-ce qu'on peut...
Même des vrais faux documents. Je vais faire ça. D'accord, merci. On va accueillir Jérémy depuis Lubumbashi. Bonjour Jérémy.
Oui, bonjour Monsieur Jody et bonjour également à l'invité. Je pense que pendant cette période où l'Est de notre pays et toute sa population est en train d'être écumée par l'ennemi et qui continue à semer la scène de territorialisation, alors il se pose un problème. La population ou le peuple congolais se trouve face à l'imbroglio et ne savent plus à quel sens se vouer. Ce qui veut dire qu'il y a certains éléments qui semblent échapper à la population congolaise. C'est entre autres les détails souvent qui échappent au contrôle, entre autres les titres même qui est posté, et voire même la date qui souvent pose problème, et même la structure du site.
Oui.
Alors ici, il faut rappeler au peuple qu'il faut mettre sur pied ce qu'on appelle des supports pédagogiques contre la désinformation.
Et je pense que pour y parvenir, il faut peut-être enseigner la population congolaise. Il faut apprendre à la population congolaise qu'il faut juger la fiabilité d'abord d'une information. Il faut vérifier sa source. C'est là que pose le problème. Et lorsqu'il y a aussi le problème des images qu'on poste souvent. Je vais vous donner un peu les tabloïds que moi j'ai constaté hier. Lorsque je faisais.
Et Jérémy, vous savez, les images, on peut les trafiquer, hein.
Exactement, monsieur Jody. Je vous donne un exemple hier, ce que j'ai vu. J'ai vu trois tableaux. Je vois les rebelles en train de faire leur meeting. Et deuxième scène, j'ai vu la population gomatracienne en train de courir. Soit disant qu'il y a eu les Wazalendo et notre armée
qui ont dispersé le meeting.
Qui était là-bas. Alors, ça c'est deuxième image. Et troisième image, j'ai vu les gens en train d'appuyer le président en place pour dire nous ne voulons pas d'une autre personne. Alors, vous voyez, devant ces trois tableaux,
où se trouve la vérité?
Population est confuse.
Oui.
Alors, c'est là que nous disons qu'il y a un problème. Ce qui veut dire que la grande maladie ici chez nous, c'est que même certains journalistes s'entremêlent à la population profane qui ne maîtrise pas les informations et pour arriver peut-être à s'en passer de la vérification et du décryptage de l'information. Et ils arrivent parfois à extirper ce qu'on appelle la série de techniques pour arriver à démêler les vrais du faux. Et par rapport au flot d'informations que nous avons. Et pour arriver maintenant, comment est-ce que les fake news apparaissent? Ça, c'est comme une bombe qui arrive. Et alors, elles peuvent amener, donc c'est-à-dire, elles peuvent émaner des blogueurs ou des réseaux sociaux, des médias ou des personnalités politiques. Et avec quel objectif? De nuire à une personne. C'est soit.
Allô? Allô? Allô, Jérémy? Voilà, il y a un souci au niveau. Oui, d'accord. Donc, l'objectif de ces fake newsers, c'est de nuire à certaines personnalités ou de désorienter carrément la population.
Mais face à cette situation, il faut que la population arrive à se méfier de ces systèmes de bouche à l'oreille. Deuxièmement, il faut rester dans l'identification de la source d'information et se fier des arguments, surtout de l'ennemi dans les cas d'espèce. Parce que l'ennemi a une bombe fatale qu'il utilise. C'est quoi? Il lance quelque chose et la population, il sait que la population gobe tout. Et surtout ici chez nous. Mmh. Alors, il faut peut-être le gouvernement qui est peut-être le concentrateur. C'est lui qui définit la politique générale parce qu'il lui revient, lui en tant que responsable, de pouvoir bien canaliser et instruire. Nous avons fait l'émission autrefois avec le président du CESAC. Alors, j'ai dit ceci, il faut maintenant là qu'on puisse organiser, faire la sensibilisation, à commencer par les médias et d'autres structures, oui, pour que les gens arrivent à
vérifier
dans la véracité des informations.
D'accord.
Et surtout vérifier la source.
Merci.
On ne peut pas balancer du n'importe quoi, et même les médias, c'est ce qui est grave.
Merci beaucoup.
Et n'oublions pas qu'il y a certains médias qui sont à la solde de l'ennemi, hein.
D'accord, merci beaucoup Jérémy de Lubumbashi. Elvis, vous êtes à Kinshasa. Nous parlons aujourd'hui des fake news sur les réseaux sociaux en cette période des conflits armés. Comment identifier les vrais et des fausses informations? Elvis de Kin, bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour aussi à l'invité. Je pense que c'est un sujet vraiment qui est à la une. Nous avons débattu avec la parole de solitaire là, cette semaine. Avec le président de CNSAC. Je crois que peut-être si c'est fait prendre un peu plus de l'ampleur, c'est parce qu'il y a deux points. Le premier point, je peux dire que c'est la marque de la vraie information venant du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a une communication vraie, hein, ou une communication franche où on dit la réalité de ce qui s'est fait. Je viens à ce que mon président vient de parler, frère Ismaël. Il a bien dit, il y a des informations qui se partagent de groupe en groupe. Peut-être que quelqu'un n'a pas une source, la source fiable où il a reçu l'information. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est à Goma. Il poste cette information dans un groupe. Quelqu'un partage aussi avec un autre. C'est ici que vous pouvez arriver à retrouver la source où la base, la source de l'information a commencé. Et ce fait juste là que nous pouvons parler, ça peut être passé par des rumeurs, par des fausses informations. Voilà, ce sont ces fait juste là qui arrivent des vérités. Je prends un exemple. Je prends l'exemple du gouverneur militaire qui a été assassiné, ou peut-être que nous avons parlé la semaine passée là. Depuis vendredi, parce que l'information nous est parvenue après le conseil des ministres le vendredi. Alors que le jeudi soir, sur les zones, l'information passait que le gouverneur militaire est déjà décédé. C'était un fake news, c'était une fausse information. Mais après avoir que le conseil des ministres ait tenu les réunions, on est venu apprendre qu'il est mort sur les chats, l'arme à la main. Alors, je voulais dire quoi? Si peut-être notre gouvernement devait disposer des moyens ou des sources fiables de donner des informations vraies, j'insiste pour vous dire ça. Les communications que peut-être les ministres de la communication nous fournissent, ou les informations que nous gagnons peut-être des chaînes, ou peut-être on peut dire qu'elles sont officielles. Ne dictez pas la vérité de ce que nous avons.
D'accord, merci beaucoup Elvis, merci.
Je ne dis pas.
D'accord, on a compris votre préoccupation. On va accueillir Eminent Mwanda de Bukavu. Nous parlons des fake news, comment les détecter. Eminent, vous êtes à Bukavu, bonjour, et quelle est votre question, rapidement?
Bonjour monsieur, aujourd'hui, au milieu de la
radio. On vous écoute Eminent.
Bon. Oui, je sais très bien que le fake news est en ce moment ici très difficile, dont la situation sécuritaire n'est pas bonne, tout à l'est, devait d'abord être réglé au niveau national. Il y a déjà une loi sur la numérique, l'État a déjà réglementé cette histoire-là. C'est pour cela que je voulais que cette loi soit appliquée. Parce que je prends l'exemple de Kia Bukavu. La nuit d'hier, il y avait vraiment des mauvais rumeurs qui avaient circulé. Là, on ne savait pas même quoi la suite d'informations. Donc, même les universités n'ont pas ouvert leurs portes. Pourtant, on ne sait pas maintenant. La population, d'abord, la question que je peux poser à l'invité. La population devait se servir des informations venant d'où. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur ce sujet-là à F2, la cybercriminalité. C'est une situation très difficile à retrouver parce que l'auteur est caché derrière un mur qui est l'Internet. Donc, je ne peux pas savoir les détecteurs.
Eminent, on ne vous capte pas très bien. Est-ce que c'est possible de bouger un tout petit peu? Peut-être que la qualité de la communication va s'améliorer. Par exemple, on a lu ce matin dans certains groupes, voilà, des bandades à Kavumu, tout ça, à Bukavu, les gens sont, c'est la panique, etc. Mais est-ce que c'est vrai ou comment confirmer une telle information? Eminent, rapidement, vous pouvez poser votre question.
Oui, je suis là. Est-ce que vous me captez?
Oui, ça va.
Bon, je disais ici, nous sommes à Bukavu réellement. Il y a vraiment des paniques. Cette panique là est vraiment amplifiée par certaines universités, parce que quand on attend certaines écoles dire que non, il faut d'abord garder d'enfants à l'école, ça c'est dramatise la situation. C'est pour cela que nous voulons que le gouvernement puisse disponibiliser un communicateur spécial vraiment de cette situation pour au moins aider la population à savoir à quel pied danser. Sinon, et il y a certaines personnes qui décident d'attraper d'abord l'AVC pour soit tomber avec la tension à cause de ce panique-là. On commence à copier même des images. On nous dit que ça, ils sont déjà à tel endroit aussi depuis que tout ça, ce sont des images dont on peut capturer quand le 2023 était encore à votre. On dit que ça va être à tel village. Alors on ne sait pas. C'est pour cela que la loi sur la numérique devrait être pour bien réprimer ce fake news. Parce qu'au-delà de ça, il y a des gens qui s'appellent deepfake. Tu peux prendre l'image et on a...
Oui, on peut trafiquer, on peut... falsifier les images. Merci Eminent Mwanda depuis Bukavu. Monsieur Christian Malele, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs?
Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que lorsque vous êtes devant une information qui est trop belle, qui est trop choquante ou trop étrange pour être vraie, sachez simplement que vous êtes non loin d'une fausse information. Parce que la plupart des fausses informations viennent juste pour réveiller nos émotions, soit pour créer la peur ou la panique,
oui.
Soit pour chercher juste une méthode pour vous adhérer à une idéologie plutôt et consort. Alors, il faut d'abord parler du contexte. Le contexte, c'est un contexte de conflit armé. Et il faut savoir que dans un contexte de conflit armé comme ce que nous vivons actuellement, il y a plusieurs acteurs de fausses informations ou de désinformateurs. Mmh. Nous avons les acteurs étatiques, nous avons les médias et nous avons aussi la population. La population, quand je parle de la population, je fais allusion aux internautes. Donc la population qui se revendique patriote comme je venais de le dire. Il faut aussi savoir que lors de ces genres de situations, les différents camps qui sont en confrontation.
Ont aussi leur armée numérique.
Ils ont leur armée numérique et poursuivent des objectifs. Donc, les objectifs poursuivis étant d'autres que propager la terreur. Donc, propager la terreur, c'est-à-dire ressortir des anciennes images, des anciennes vidéos.
Pour terroriser. Pour démoraliser les troupes.
Démoraliser les troupes sur le terrain, oui. Démoraliser la population, désolidariser la population. Donc, c'est vraiment la terreur. Donc, faire fuir, par exemple, la population avant même que la guerre n'arrive déjà sur les lieux.
Oui.
Donc, ce qui peut provoquer beaucoup de choses comme des déplacements internes, comme des situations des réfugiés, la famine
et beaucoup d'autres surtout que les gens se partagent facilement les fausses nouvelles dans les différents groupes WhatsApp.
Exactement, parce que ça touche nos émotions. Donc ça touche nos émotions et on s'est dit, mais entre l'émotion et l'intellect, on doit choisir plutôt l'émotion parce qu'on a peur. Donc c'est ça la circonstance. Et c'est différent quand on propose de fausses informations, voire même des images, des vidéos, des audios, pour montrer leur puissance ainsi que leur force sur le terrain. Donc, ils ne diffuseront pas toutes les vidéos ou toutes les images, mais ils sélectionnent des images et sélectionnent des vidéos de leur réussite, de leur succès, pour faire voir à l'autre camp que non, nous avançons et nous sommes dans les bons et tout. Mmh. Et un autre objectif, c'est qu'ils se victimisent. Donc, ils postent des vidéos pour se victimiser, pour se dire, voilà ce que vous faites à la population, voilà telle chose, voilà telle autre chose. Et au-delà de ça, ils s'accusent entre eux. Donc, il y a des vidéos, des audios, des déclarations où on peut voir que non, tel camp accuse tel autre de bombarder, par exemple, tel endroit ou de faire telle ou telle autre chose. Et au-delà de ça, ils révèlent aussi leurs intentions qui peuvent aussi être de prétexte. Mais il faut savoir que dans de telles circonstances, chaque camp a tendance à exagérer l'information.
Mmh. Je me souviens dernièrement, il y a même un audio d'une dame qui circulait dans les différents groupes WhatsApp disant « Faites attention, faites déjà des provisions à la maison parce que ça partira de Brazzaville. En tout cas, on est informé, faites attention. » Et ça a créé la peur, c'est la psychose.
Exactement. L'objectif, c'est soit d'exagérer, soit de minimiser. Donc, ils diffusent des fausses informations, ou que ce soit des vidéos, des audios et consorts, pour exagérer les faits. Peut-être que c'était juste 2 personnes, mais on parlera de 10 ou de 100 personnes.
Oui.
Peut-être que c'était au-delà, mais on va dire que non, ce n'est pas 100, c'est plutôt 10 personnes. Donc, chaque camp voudra soit exagérer le fait, soit minimiser le fait.
Alors, comment maintenant identifier? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on a fermé TikTok?
Je dirais en quelque sorte oui.
Oui, parce que sur TikTok ça allait dans tous les sens. Hein.
Exactement, surtout sur TikTok, il y avait vraiment des exagérations. J'ai vu des vidéos où on exagérait tellement trop. J'ai vu par exemple un TikToker publier une vidéo avec un son de crépitement des balles.
Oui.
Et il disait que non, les rebelles sont déjà à Lubumbashi. Et je me suis dit, quand j'ai vérifié la vidéo, je me suis rendu sur le compte TikTok de ces TikTokers, je me suis rendu compte que le même son a déjà été utilisé dans plusieurs de ses vidéos. Et je me suis directement rendu compte
qu'il a fait son montage, il prend les images et puis il met les...
Il met juste le même son pour faire croire à l'opinion que non, ils sont déjà à Lubumbashi. Et c'est juste une manière d'exagérer pour faire peur, pour créer la terreur avant même que le groupe en question arrive sur les lieux. Alors comment identifier, pour répondre rapidement à la question posée, comment identifier une fausse information? on est là face à divers formats de fausses informations. Nous avons des déclarations qui se présentent très souvent sous forme de textes. Nous avons des images fixes, des photos, nous avons des vidéos et nous avons aussi des audios. Pour vérifier, par exemple, un texte, je venais déjà de donner la première technique. Mmh. Il suffit juste de copier la déclaration. Vous copiez exactement la déclaration, vous la placez entre guillemets sur un moteur de recherche comme Google. Mmh. Et Google va vous renvoyer tous les résultats, donc c'est-à-dire tous les sites là où on a repris la phrase correctement, selon l'ordre de mots. Mmh. Et si vous retrouvez par exemple la déclaration sur un site internet qui est peut-être un média que vous estimez fiable, certainement que l'information pourrait être vraie, parce que vous avez.
Il y a même des gens qui ont créé des faux comptes des radios Okapi. On a les sites des radios Okapi.
Exactement. Par exemple, ce que vous venez de dire, c'est vraiment réel. Oui. Alors comment, par exemple, savoir que vous êtes sur les sites de radio Okapi ou si vous n'êtes pas sur les sites
Un faux site de radio Okapi.
Il y a ce qu'on appelle le nom des domaines. Par exemple, pour Radio Capi, c'est radiocapi.net. Mm. Et si vous vous connectez, par exemple, sur radiocapi.com, sachez que vous n'êtes pas sur radiocapi.net. C'est déjà un site falsifié où vous allez certainement trouver des fausses informations en prétendant que ça provient de Radio Capi alors que c'est totalement faux. Mm. Donc, il faut vraiment procéder de la sorte. Et au-delà de ce que je viens de dire, il faut plus confronter des sources. Il faut recouper des sources. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en journalisme le recoupement des sources.
Des sources.
Donc il faut se fier à plusieurs sources et non à une seule source. Parce que c'est en confrontant plusieurs sources que vous pouvez parvenir à la vraie version des faits. Vous allez peut-être voir qu'est-ce que l'autre camp a dit au même sujet ou par rapport à tel événement ou tel fait. Et qu'est-ce que les experts disent à ces sujets, qu'est-ce que le média dit à ces sujets. Donc il faut vraiment croiser plusieurs sources pour espérer parvenir à la vraie version des faits. Donc il ne faut pas se fier à une seule source, mais il faut plutôt utiliser plusieurs sources espérer parvenir à la vraie version des faits. D'ailleurs, il y a une méthode simple que nous oublions très souvent pour parvenir à la vraie version des faits. Il suffit juste de lire les commentaires. Lorsqu'il y a une vidéo sur Internet ou une photo sur Internet qui prétend dire telle ou telle autre chose, il suffit juste de lire les commentaires. Parce que si on nous dit par exemple que cette vidéo a été prise par exemple à Kinshasa, moi j'habite Kinshasa, quelqu'un qui est par exemple à Lubumbashi peut me contacter pour me dire mais est-ce que tu reconnais l'endroit ? Je peux dire que non, ce n'est pas Kinshasa, parce que je ne reconnais pas l'endroit. Et ce qui est encore sûr, c'est qu'en lisant les vidéos, vous allez certainement retrouver quelqu'un qui a une vraie information. Vous allez certainement retrouver quelqu'un qui a déjà vu la vidéo.
Oui.
Vous allez certainement retrouver quelqu'un qui a déjà entendu parler de
la chose. Et qui pourra vous éclairer.
Oui. Donc, ça ne sera peut-être pas une vraie information directement, mais ce sera une piste qui peut vous conduire directement vers la vraie source d'information. Et quand il s'agit d'une vidéo ou d'une photo, comment vérifier?
Oui, qui a été trafiquée, on prend le corps de quelqu'un, on met sur la tête d'une autre personne.
Exactement. Je l'ai d'ailleurs vu plusieurs fois, sur les réseaux sociaux récemment et tout. Et comment parvenir à vérifier ou à authentifier ces genres de contenus? S'il s'agit par exemple d'une photo, il suffit juste d'observer, que ce soit une photo ou une vidéo, il faut bien observer. Parce que lorsqu'on regarde souvent la vidéo sur téléphone, c'est un peu compliqué de voir le détail parce que l'écran est un peu petit. Mais si vous regardez la même vidéo par exemple dans un ordinateur ou dans un poste téléviseur, vous allez voir tout le détail. Mais rien n'empêche de vérifier ou d'observer directement l'image ou la vidéo à partir de votre téléphone par exemple. En observant, vous allez identifier des indices. Et certains indices peuvent vous dire que non, cette image a été truquée.
Quel indice par exemple?
Par exemple, pour vérifier une vidéo, il faut peut-être s'atteler sur des indices comme un drapeau. On peut vous dire par exemple que c'est dans tel endroit alors que c'est dans tel pays alors que c'est en RDC. Tout comme on peut prendre une vidéo d'une guerre d'ailleurs et la ramener dans le contexte congolais. Et en voyant juste, par exemple, le drapeau de ces pays-là dans la vidéo, ça peut déjà vous dire que non, cette scène ne s'est jamais déroulée en RDC, mais c'est plutôt dans un autre pays. Vous pouvez aussi remarquer, par exemple, l'habillement des personnes dans la vidéo, tout comme dans la photo. C'est vrai que nos styles vestimentaires diffèrent d'un pays à l'autre, surtout sur le plan continental. Et au-delà de ça, il y a des plaques d'immatriculation, par exemple, il y a il y a la langue parlée aussi. Parce que vous pouvez écouter.
Donc même
langue...
si on a trafiqué, il y a toujours quelques petits indices.
Les crimes ne sont pas
parfaits.
Oui. Les crimes ne sont pas parfaits. Vous allez vraiment déceler des indices qui peuvent vous orienter vers la vraie info. C'est ce que je disais. Il y a vraiment des indices dans la vidéo ou tout comme dans une image qui peuvent vous alerter pour vous dire que non, il faut faire attention. Il faut encore fouiller pour obtenir un peu plus d'informations ou plus de preuves. Mais il y a aussi des outils numériques que nous utilisons pour détecter des fausses informations, surtout des images, voire des vidéos générées par l'intelligence artificielle. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche Google. Le moteur de recherche Google, Google Images ou Google Lens, c'est la même chose que nous faisons quotidiennement. Donc, au lieu maintenant de lancer une recherche en insérant des mots-clés, il suffit juste de cliquer à côté. Si vous êtes sur Google, dans la barre de recherche, il y a une icône à côté sous forme d'un appareil photo. Il suffit juste de cliquer sur cette icône-là. Ça va vous renvoyer vers votre galerie de téléphone. Et vous allez téléverser l'image qui fait l'objet de votre recherche, ensuite lancer la recherche. C'est ce qu'on appelle la recherche d'image inversée. Et au lieu de lancer une recherche avec des mots-clés, vous lancez plutôt une recherche à partir d'une image. Et Google va vous renvoyer des résultats, des images similaires à l'image faisant l'objet de la recherche. C'est à partir de là que vous pouvez avoir la chance ou l'opportunité de retrouver l'image sur Internet. Et en retrouvant l'image sur Internet, vous pouvez cliquer sur le site où l'image a été publiée. Et vous allez voir la date à laquelle l'image a été publiée, voire même les contextes dans lesquels l'image a été publiée.
L'image a été publiée.
Peut-être que l'image date de 2012,
mais on veut le faire commun des mortels, est-ce que les gens ont le temps de faire, de procéder à toutes ces vérifications-là?
Alors, de manière s'il faut vraiment rester sur les fondamentaux de la vérification des faits, j'ai parlé de lire les commentaires, recouper les sources.
Vérifier un texte sur Google, par exemple.
Vérifier un texte sur Google, vérifier les sources. Et se fier aussi aux médias qui sont crédibles, des médias que vous estimez vraiment crédibles et des médias indépendants. Parce que des médias crédibles et indépendants veillent vraiment sur la qualité de l'information, parce que ce sont des médias sérieux. Mais dans ces genres de situations, il faut aussi se fier aux médias de fact-checking. Les médias de fact-checking, ce sont des médias de spécialisation des faits. Ces médias ne font que vérifier
comme
les fausses informations.
Comme
le Koutamabé, là où je travaille. Donc nous vérifions régulièrement les contenus publiés sur les réseaux sociaux pour dire que tel fait est vrai et tel fait est faux. Donc c'est vraiment le travail que nous faisons régulièrement et pour informer la population et tenir la population au courant de tout ce qui se passe.
D'accord. Mais, un instant, nous parlons aujourd'hui des fake news, comment les identifier, surtout en cette période de conflits armés dans la partie est du pays. Martin nous appelle depuis Chicapa. Vous voulez également participer à cette émission, le standard est ouvert. Composez les 099-706-9941. Martin de Chicapa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Papi, radio partenaire, radio Kilimanjaro.
Quelle est votre question, Martin?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Je suis très, très content du sujet. Vous le constatez avec moi, la guerre à l'est de la République démocratique. Peut-être nous constatons sur terrain que le monsieur Papa se dit beaucoup de choses.
Martin, est-ce possible de bouger un tout petit peu parce qu'on ne vous capte pas, pas très bien? Est-ce possible de bouger un peu?
Vous me suivez?
Oui, allez-y.
Ah, d'accord. Alors, comment aider ce papa? Comment aider ce papa qui n'a pas peut-être la maîtrise sur l'utilisation de la vérification des fausses informations sur Net? Comment les aider? Comment les aider? Parce que des jeunes gens qui ont des petits téléphones et qui se connaissent, qui trouvent malheureusement des fausses informations, leur part de ces informations. Ils ont comme des vraies informations. Comment est-ce que alors ce vieux papa qui ne trouve pas de cette.
Bien, merci beaucoup. Comment aider ces papas, ces mamans qui sont pas habitués aux nouvelles technologies à pouvoir détecter les fake news? Bien, monsieur Christian Malélé.
Alors, pour aider cette catégorie de personnes, il faut juste leur dire qu'il faut se poser des bonnes questions. Alors, se poser des bonnes questions, c'est dire c'est qui la source? Qui est la source de cette information? Qui l'a relayée? Qui l'a publiée? Et si ça provient d'une source fiable ou d'une source indépendante, vous pouvez quand même vous rassurer. Parce que vous connaissez l'identité ou la qualité de son travail, par exemple. Mmh. Et au-delà de ça, vous pouvez vous dire pour quel objectif l'information a été partagée. Donc, parce que le fait de chercher à connaître l'intention de la diffusion de cette information peut aussi vous aider à savoir si l'information est authentique ou non. Et vous pouvez aussi vous poser la question de savoir quand est-ce que cela a été dit. Quand est-ce que cela a été publié? Parce que dans ces genres de situations, on utilise très souvent des anciennes vidéos ainsi que des anciennes images pour faire croire à la population que c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain, alors que c'est faux. Donc on peut prendre une vidéo d'une guerre, comme je le disais, d'une guerre qui s'est déroulée dans un autre pays pour le mettre dans le contexte congolais, ou une image de massacre ou de personnes qui pleurent, des personnes qui quittent un territoire, qui fouillent la guerre et tous les combats. Donc on peut prendre ces genres d'images, ces genres de vidéos pour le mettre dans un contexte autre que le contexte initial.
Donc, faut mais avoir pourquoi, mais pourquoi les gens dans les groupes WhatsApp, par exemple, ils partagent facilement ces genres d'informations?
Oui, pourquoi c'est sur WhatsApp que ça s'est fait facilement? Parce que WhatsApp, c'est un réseau social d'abord qui est trop, je dirais, trop restreint. Pourquoi je dis restreint? Donc c'est entre amis, entre familles. Donc lorsque j'ai une fausse information, par exemple, qui touche mes émotions, qui me fait peur, je ne voudrais pas que cela arrive à un proche.
À
je
un
ne voudrais
proche, pas à que un ami, à un ami, à un membre
frère,
de la famille.
À une sœur, oui. Donc j'aurais toujours tendance à informer ma famille pour leur dire, ben il faut faire attention, il y a telle chose, telle information qui vient de me parvenir. C'est dans le souci d'informer son entourage que les fake news
se propagent
rapidement sur WhatsApp. C'est qui est un peu différent de Facebook et d'autres
Twitter, par exemple.
Donc sur Facebook, ça circule rapidement parce que les utilisateurs ont très souvent tendance à informer leurs proches alors qu'ils font de la mésinformation. Donc ils diffusent des fausses informations de manière involontaire, mais avec l'objectif de sécuriser son entourage, ouais. Alors que c'est plutôt empirer la situation parce que ça aura encore
et de sur TikTok, c'était pire sur TikTok.
Sur TikTok, c'est vraiment pire parce qu'il n'y a que des exagérations. Donc les vidéos que je vois, que je vérifie, des déclarations qui sont totalement truquées, totalement fabriquées, donc voire même des images générées par intelligence artificielle, tout ce qu'on vérifie, tout ce que j'ai eu à vérifier jusque-là sur TikTok, il n'y a que des exagérations. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui cherchent à dérouter la masse, à faire du mal surtout, à induire des gens en erreur et à nuire aux intérêts, voire même de l'État. Raison pour laquelle je conseillerais aux personnes qui veulent vraiment...
Mais comment les gens arrivent à publier parfois les documents officiels? On vous dit que ça, c'est un document officiel, vous voyez, avec le cachet de l'État, bien signé par le ministre de tel, tout ça, et ça circule.
Alors, pour vérifier, par exemple, ces genres de contenus, oui. Il suffit juste de se rendre sur, par exemple, les réseaux sociaux officiels de la
diffusion
ou du ministère, par exemple. Si on vous dit que non, tel ministère a signé tel document en disant telle ou telle autre chose, il faut se référer à la source, à l'origine. C'est ce que j'appelle la source primaire. C'est ce qu'on appelle aussi en journalisme la source primaire. Si on dit que tel document provient de tel ministère, il faut se rendre, par exemple, sur la page Facebook officielle de ces ministères pour voir si les communiqués se retrouvent aussi sur le même compte. Oui. Se rendre, par exemple, sur le compte X du même ministère pour voir si cela a aussi été partagé. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez même contacter quelqu'un qui travaille au sein de ces ministères pour se renseigner. Et au-delà de ça, il y a des outils. Certainement, je n'aurai pas la possibilité d'expliquer comment on peut les utiliser pour savoir que tel document est vrai ou faux. Mais ces genres d'indices déjà peuvent vous alerter pour vous dire qu'il faut faire attention. Par exemple, des fautes d'orthographe. Dans ces genres de contenus, il y a toujours des fautes d'orthographe. Ce sont des indices. Il y a des fautes d'orthographe, vous verrez que la police n'est pas identique à la police utilisée habituellement par ce ministère. Peut-être que je ne sais pas si les auditeurs comprennent lorsque je parle de la police, mais certainement oui. Lorsque vous utilisez par exemple Calibri, lorsque le ministère utilise par exemple la police Calibri, alors que dans le contenu, dans le communiqué en question, nous trouvons une autre police, ça peut déjà nous alerter parce que ce n'est pas une police utilisée habituellement par le ministère. Il y a aussi la date dans les dans le dit communiqué. Parce que très souvent, c'est des informateurs oublient et laissent certains indices. Donc, ils peuvent modifier le texte, mais ils oublient la date. Ils oublient de modifier la date et ça peut déjà vous alerter. Peut-être qu'on vous dit que non, ça a été signé en 2025 alors que ça date de 2023. Donc il faut vraiment vérifier tous ces éléments pour se rendre compte vraiment que vous êtes face à une vraie information ou à une fausse information.
D'accord. Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi et Jeannot nous appelle de Kolwezi. Ismaël, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux fake news?
Bonjour Jody, bonjour à tout le monde. Bon, je pense que c'est un projet comme sur la page par rapport au manque des informations sûres. Et puis par de ceux qui partagent aujourd'hui sont ceux qui utilisent les téléphones mobiles. Plus il y a l'amateurisme. Oh, les gens ne savent pas comment fouiller et chercher une réelle information. C'est ça la première chose. Moi, quand je me retrouve devant une certaine publication, je me pose d'abord la question de savoir quel est l'intérêt de celui qui a publié et quel est l'objectif de celui qui a publié ça. Cela me donnerait plus le temps de savoir réellement est-ce que ça c'est une vraie information. Mais si on donne confiance à toute chose, c'est ce qui cause plus de problèmes et les gens ne savent pas qui est et qui peut encore donner cette information-là. En guise de la guerre que nous avons à l'Est, là c'est tellement grave parce que chaque personne a son opinion.
Oui.
Par rapport à cette opinion-là, celui qui partage votre opinion, il va accepter facilement. Donc, nous devons fouiner, chercher la source réelle. C'est tel que c'est au titre des informations. Moi, je suis plus la radio Okapi, la RFI, où je fais mes recherches d'ailleurs, j'écris. Mais c'est que je ne peux pas être trompé. Mais s'il s'agit de la guerre, comme la RFI est là, bon, certaines sources aussi claires. Mais quand on donne la foi à toutes choses, c'est ça le grand problème. Maintenant, la question que je pose à l'invité, c'est de savoir, quelles sont les conséquences d'une mauvaise information?
Bien.
Là, nous savons, c'est lui qui publie une mauvaise information. C'est qu'il a déjà une mauvaise intention.
Oui.
Mais quand on fait croire aux gens que ça, c'est une mauvaise information, bon, quelle sera la répercussion? Ou comment le gouvernement ou les organes spécifiques qui sont censés donner les informations peuvent réagir.
Merci Ismaël Mumpoy depuis Lubumbashi. Jeannot, vous êtes à Kolwezi. Bonjour.
Bonjour monsieur Jeudi, merci.
Nous parlons des fake news aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Oui, oui. Oui, beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais je me réjouis de ceci. Cette émission entre dans le sens du combat du CESAC, je crois. Et vous allez voir que le porte-parole, donc le gouvernement au travers de la bouche du porte-parole, s'est constitué en la vraie source, la source officielle, par exemple, de ce qui se passe à Goma. Mais le problème qui est là, c'est que parce que c'est l'État qui nous informe, l'État ne nous dit pas tout, pour ne pas peut-être toucher les âmes sensibles, pour ne pas scandaliser et créer des troubles.
Oui.
Et cela devient aussi une autre fausse information quand on ne dit pas réellement ce qui se passe sur le terrain, surtout quand on est État. Par la bouche de M. Patrick Mouyaï.
Et la nature a horreur du vide.
Voilà, c'est ce qui crée la curiosité dans le chef de nous autres pour qu'on aille chercher l'autre son de cloche. Je vais vous donner un exemple. Il y a un journaliste, avant qu'on ne ferme Twitter, qui est populaire, je ne veux pas citer son nom, il est à l'étranger.
Twitter est fermé aussi.
Lui, là, il publie. Bon, mais le mien ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. D'après presque une semaine.
D'accord. Christian nous confirme que Twitter est aussi fermé.
Ce journaliste-là, comme je disais, quand il tweet, vous vérifiez quelques jours après, c'est vrai. Je veux parler de deux cas précis. La mort du gouverneur, le regretté gouverneur. Lui, il avait publié, on l'avait lu sur Twitter. Quelques temps après, on l'a confirmé par les officiels. Parlant aussi de la malheureuse chute de Goma. Il en avait publié avant, et plus tard, c'est les officiels qui ont confirmé. Vous voyez qu'on aura le choix entre les deux, soit suivre M. Mouyaya, soit suivre ces journalistes qui, quand ils tweetent, c'est du vrai. Donc, que le gouvernement fasse son effort de nous dire des vérités, bien que des fois peut-être scandalisant, blessant, dites-nous la vérité parce que vous avez l'image de la sérosité, vous avez la confiance de tout le monde. Et quand vous commencez à donner des fake news en ne nous donnant pas tout ce qu'il faut nous donner, vous devenez un peu, ça devient un peu moins sérieux, voilà, vous n'avez plus notre confiance. Je vais parler, je vais aussi dire par rapport à quelque chose que le VT a dit. Il se fie trop à Google. Je voudrais pousser un peu l'intelligence plus loin. Parce que Google est tenu par ceux qui sont derrière le Rwanda. Supposons que c'est les États-Unis, je crois. En allant chercher dans Google, n'est-ce pas, ce sont les hommes qui tiennent ça avec sentiment et consort et pourraient peut-être faire que la vraie information soit niée par juste intérêt de couvrir leurs envoyés sur le terrain qui sont les Rwandais. Je ne sais pas, c'est une réflexion que je réfléchis comme ça.
D'accord,
merci. Pourquoi se fier sur Google alors que Google est tenu par les États-Unis?
D'accord, merci beaucoup, Jeannot.
J'aimerais finir. Oui. J'aimerais finir, s'il vous plaît. J'aimerais finir.
D'accord, allez-y rapidement.
Vu qu'il y a similitude sur des guerres, quand on viole de la même manière qu'on peut violer dans d'autres pays africains. Est-ce que c'est facile de distinguer les informations des faits qui se passent sur le terrain des viols? Parce que quand le boulot se comporte de la même manière, comment vraiment distinguer vraiment des informations dans ce sens-là?
D'accord, merci beaucoup Jeannot depuis Kolwezi. Christian Malele, à vous la parole.
Alors, je commence d'abord par répondre sur la question liée à Google.
Oui.
C'est vrai que Google est géré par, je dirais, par les États-Unis parce que c'est un entrepreneur américain. Mm. Mais ce qui est sûr, les résultats que nous renvoie Google provient des différents sites d'Internet. Ça peut être le site de Radio Okapi, tout comme un autre site, tout comme un compte réseau social. Donc, c'est-à-dire,
Google n'est qu'un moteur de recherche,
ce n'est pas une source directe. Okay. Donc, c'est juste un moteur de recherche qui rassemble toutes, je dirais, plusieurs sources. Mm. Lorsque vous vous connectez sur Google, ça va vous renvoyer plusieurs résultats. Peut-être si la déclaration a été retrouvée dans un article de Radio Okapi, vous verrez vraiment un article de Radio Okapi mentionné parmi le résultat renvoyé par Google. Et quand vous allez cliquer sur le lien, ça va vous renvoyer directement sur le site de Radio Okapi. Donc, c'est-à-dire, c'est le site de Radio Okapi et non Google. Mmh. Donc, vous vérifiez auprès de Radio Okapi et non auprès de Google. Là, c'est la première.
Sa deuxième préoccupation, il dit que le gouvernement ne nous donne pas de bonnes informations ou gèle les infos. C'est pour cela, bon, les gens vont chercher les informations ailleurs.
Exactement. C'est d'ailleurs prouvé que le vide crée, fait en sorte que,
de vide.
Oui, fait en sorte que les gens s'imaginent des choses.
Oui.
S'imaginent des choses pour chercher à se sécuriser. Parce que l'homme, naturellement, cherche à se sécuriser. Donc, on ne peut pas marcher en étant aveugleux, en étant...
veut être informé.
Il faut avoir quelques informations pour vous aider à prendre de bonnes décisions. Et avancer. Mmh. Alors, la situation actuelle, je dirais, par rapport à la situation actuelle plutôt, je dirais que si... Bon, je peux proposer, parce que c'est une proposition, ça sera intéressant peut-être qu'on organise, que le ministère, par exemple, de communication organise régulièrement, pour ne pas dire chaque jour, des points de presse afin d'informer la population sur la situation actuelle du conflit dans la partie est de la RDC. Je pense que ça va répondre à une bonne partie des questions que se pose la population pour aussi gérer l'information, parce que les vides de l'information favorisent la prolifération ou la propagation rapide des fausses informations. Mmh. Et c'est juste ça. Je dirais encore que il faut vraiment mettre un peu de rigueur sur le respect des lois qui existent déjà. Parce que la Constitution donne le droit à l'information, à la population. Il y a d'autres lois comme les codes du numérique, les codes pénal congolais, les codes militaires congolais. Il y a au-delà de ça même l'éthique des journalistes congolais. Mmh. C'est-à-dire, il y a déjà des lois qui existent qui régulent l'information et la communication en RDC. Donc, si l'État ou les autorités mettre vraiment de la rigueur là-dessus, je pense que des gens qui ont tendance à diffuser des fausses informations seront interpellés et ça va réduire la prolifération des fake news.
Il faut les poursuivre, les sanctionner.
Oui, exactement, voilà. Ça va réduire les fake news.
Merci beaucoup Christian Malele. D'accord, je rappelle que vous êtes expert sur les questions de la désinformation à Lokuta Mabé, un programme de vérification des faits, des fact-checking. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.